Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal de 7h, heure de Kinshasa. L'armée congolaise déterminée à poursuivre sa mission de protéger la population et le pays. Elle regrette toutefois le non-respect des engagements pris par la coalition RDF-AFC-M23, situation qui continue de coûter la vie à plusieurs civils. C'est ce qui ressort de son point de presse hier à Kinshasa. Rentrée politique du parti Bisouité National pour un Congo fort et prospère hier à Kinshasa. Dans sa GBC, il y a plusieurs propositions pour une nouvelle constitution. C'est notamment la rationalisation des institutions publiques, la suppression du Sénat et du poste du Premier ministre, aussi le retour des élections à deux tours. Notre invité, Jephté Kalongi, chef de projet à l'ONG Village Riche, nous expliquera en quoi consiste le logiciel Logimef, lancé par la RDC il y a un peu plus d'une semaine pour la gestion numérique des informations sur les produits de santé. Madame, Monsieur, bonjour. Les forces armées de la RDC réaffirment leur mobilisation à garantir la protection de la population, la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de la souveraineté nationale. Propos du porte-parole intérimaire des FARDC, le lieutenant-colonel Makazuka, hier samedi, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Cet officier militaire regrette que la coalition FC-M23 fasse fi des engagements pris au niveau national, régional et international, ce qui cause des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Suivez le lieutenant-colonel Makazuka et dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala.
Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leur mission avec détermination afin de garantir la protection des populations, la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de la souveraineté nationale. En dépit des efforts diplomatiques engagés au niveau national, régional et international, ainsi que des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha, la coalition RDF-FCM23 poursuit ses actions hostiles contre la République démocratique du Congo dans plusieurs localités du Nord Kivu, ainsi que dans le haut plateau de Fizi et d'Uvira au sud Kivu. Ces forces continuent de s'en prendre aux populations civiles et à certaines positions des forces armées de la République démocratique du Congo, causant ainsi des pertes en vies humaines, des déplacements de populations et d'importants dégâts matériels. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les attaques dirigées contre les populations civiles ainsi que contre les infrastructures publiques et stratégiques du pays. Ces actes constituent de graves violations du droit international humanitaire.
Le lieutenant-colonel Makazuka. En Ituri, alors que la province est face à une épidémie d'Ebola, les violences armées continuent de faire des victimes, notamment dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, 4 personnes ont été tuées jeudi lors d'une fusillade attribuée à des miliciens de la Codeco au village Tchelo. Par ailleurs, 2 militaires des FARDC ont été blessés lors d'une attaque menée par des éléments de la CRP. Face à cette situation, des acteurs de la société civile appellent le gouvernement à poursuivre les opérations contre les groupes armés afin de mieux protéger les populations et demande aux responsables de la Codeco de respecter les engagements pris lors du dialogue d'Arou 2 et à la CRP de respecter le cessez-le-feu décrété par son leader, Isaac Raymond.
Malgré les efforts de lutte contre l'épidémie d'Ebola, les groupes armés continuent de semer la violence dans plusieurs localités de l'Ituri. Jeudi, à Tchelo, dans les territoires de Djougou, un élément de la milice Codeco a ouvert le feu sur des personnes réunies pour des funérailles. Selon des sources locales, 3 personnes ont été tuées sur place et plusieurs autres blessées. Le présumé auteur de la fusillade a ensuite été abattu par ses propres compagnons. Quelques jours plus tôt, des combattants de la milice CRP ont attaqué une position des FARDC à Iga Barrière, à une vingtaine de kilomètres de Bounia. Des militaires ont été blessés au cours des affrontements. Par ailleurs, des sources sécuritaires indiquent que les FARDC ont découvert en début de semaine une cache d'armes de la CRP près de Nizi, 8 fusils AK-47, une mitrailleuse légère ainsi qu'une importante quantité de munitions ont été saisies. Face à la persistance de l'insécurité, plusieurs acteurs locaux appellent les responsables de la Codeco à respecter les engagements pris lors du dialogue d'Arou 2. Ils demandent également à la CRP de respecter les cessez-le-feu décrétés par son leader Thomas Lubanga afin de favoriser le retour durable de la paix dans la province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Goma, au Nord Kivu, le mécanisme conjoint de vérification élargie plus et JEVM plus est désormais doté de nouvelles installations et équipements fournis par la MONUSCO. Le chef de bureau intérimaire a procédé à leur remise officielle jeudi au nom du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bernard Danyangi, pour les détails.
Selon le chef des bureaux terrain de la MONUSCO à Goma, cette intervention s'inscrit dans le cadre de la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui confère à la mission le mandat de soutenir la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Doha. Selon M. Gani Ahar, ce nouveau bureau, accompagné d'une salle de réunion bien équipée, vise à renforcer les capacités opérationnelles, logistiques et matérielles de l'IJVM+, ainsi que du mécanisme de suivi de cessez-le-feu. L'objectif est de soutenir leurs efforts en faveur de la restauration de la paix et de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que la MONUSCO, dans le cadre de son appui aux mécanismes régionaux de la CIRGL, apporte un soutien technique au mécanisme conjoint de vérification élargie MCV+. Ce mécanisme est chargé d'enquêter sur les violations du cessez-le-feu avec le consentement des parties au conflit. Par ailleurs, dans l'exercice de ses bons offices, la mission facilite les négociations et propose des mesures de désescalade.
Le parti politique Bissoité National pour un Congo fort et prospère, BNCP, a fait sa rentrée politique hier samedi au Collège Boboto à Kinshasa. C'est à travers une journée de réflexion sur les réformes constitutionnelles avec présentation des propositions du parti pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le parti BNCP formule la promesse de rationaliser les institutions de la République pour mettre fin au gaspillage de ressources publiques. Jules Kabasubabo, directeur du cabinet du président national du parti, donne ici quelques-unes de ses propositions dans cet extrait choisi par Ella Chimbalo.
Plusieurs observateurs critiquent cette constitution et rappellent le contexte de son élaboration qui était lié à la satisfaction des appétits de certains pays alliés et de rebelles convertis en politiciens. À la lumière de ce qui précède, il est utile qu'il soit ramené à deux tours l'élection présidentielle pour plus de légitimité au président élu, que les précautions constitutionnelles soient prises pour garantir la stabilité des institutions provinciales, que le Sénat soit supprimé au profit d'une seule chambre du Parlement pour plus d'efficacité et de réduction de temps de vie des institutions, que le poste de Premier ministre soit supprimé pour donner lieu à la création d'un poste de vice-président de la République pour bien seconder le chef de l'État dans l'exercice de son mandat.
L'ouvrage « Le manifeste de la rénovation du Congo démocratique » a été porté sur les fonts baptismaux hier samedi à Kinshasa devant plusieurs personnalités. Son auteur Jules Makalaka Balamani Bolopi l'a présenté en deux versions, l'une intégrale de 285 pages et l'autre de 39 pages en version pratique. Considéré par l'auteur comme le huitième manifeste, cet essai politique interpelle les consciences, s'ouvre la critique et à la réforme et surtout appelle l'homme congolais à croire en sa dignité et à défendre son avenir. Jean-Désiré Kanyama nous en dit plus.
Deux ouvrages, une mission nationale, note l'auteur.
Comprendre pour agir et penser pour transformer.
Ce manifeste est né d'un constat douloureux.
Nous vivons dans un système politique qui ne nous ressemble pas et qui ne nous sert pas. Nous avons hérité des modèles importés.
Et surtout d'une conviction inébranlable.
Les Congos souffrent d'un déficit des visions, d'une crise des doctrines et d'un épuisement du sens collectif.
Mais pour lui, il s'agit d'un commencement.
Je viens appeler à une conversation nationale, à un réveil collectif, à une responsabilité partagée.
La RDC a besoin de changements, écrit l'auteur.
Cela implique une nouvelle vision pour le Congo, d'un Congo souverain, d'un Congo solidaire, d'un Congo rénové.
Mais avec comme doctrine.
Le Congo démocratique doit apprendre à se penser lui-même, à se gouverner lui-même, à se transformer par lui-même.
Ce manifeste est aussi un appel à la jeunesse congolaise.
De transformer son énergie en force créatrice. Refuser la fatalité, refuser le cynisme, devenez bâtisseur.
Et l'auteur ajoute.
Il devient urgent de dépasser les querelles stériles, les divisions ethniques, les calculs politiques de court terme, la dépendance intellectuelle et la gouvernance sans vision.
Les vœux et que les Congolais puissent s'approprier ce manifeste.
Moussa Matadi, des centaines de femmes commerçantes du marché Mvadou vendent leurs produits alimentaires à même le sol au bord de la chaussée. Une situation qui les expose à des risques d'accidents en raison du passage fréquent des camions remorques sur cette route. Elles affirment être contraintes de travailler dans ces conditions faute d'espace à l'intérieur du marché. Ces commerçantes demandent aux autorités urbaines d'aménager un espace adapté afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions et en toute sécurité. Elise Kavira.
La situation devient préoccupante pour ces commerçantes contraintes de travailler dans des conditions jugées dangereuses. Debout derrière ces piments vendus en petits tas de 500 et 1000 francs congolais étalés sur un morceau de sac, Anissette Nzita lance un cri du cœur.
Si l'État nous trouve un espace où le véhicule pourra accéder pour décharger nos marchandises, nous allons quitter la chaussée. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution. Quand nous voyons des remorques arriver, nous fuyons pour nous mettre à l'abri.
À ce sujet, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, indique qu'un marché avait déjà été aménagé pour ces femmes. Mais faute de suivi, elles retournent toujours le long de la route.
Moi-même, j'avais même signé un partenariat pour la construction d'un marché. Mais les mamans pensent que quand vous êtes à l'intérieur du marché, les clients ne viendront pas acheter. Mais vous allez voir, dans les jours qui arrivent, nous allons placer les chaînes pour que les gens ne puissent plus traverser.
Pour le maire de la ville, les services de l'ordre doivent davantage s'impliquer pour assurer le suivi des instructions afin de garantir le respect des mesures prises sur la durée. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Et à Kinshasa, la construction d'un nouveau marché pour les commerçants de Matadi Kibala se fait toujours attendre. Et cela, plusieurs mois après la démolition de l'ancien marché situé dans la commune de Mongafula, menée par les autorités urbaines, cette opération de démolition visait à permettre l'aménagement d'un espace commercial moderne et sécurisé pour les vendeurs et acheteurs. Le CNDP a s'est penché sur ce dossier.
Dans un climat de tension permanent, les commerçants de Matadi Kibala tentent de poursuivre leurs activités tant bien que mal. Une vendeuse rencontrée sur place salue la démolition du marché. Elle appelle toutefois les autorités à construire rapidement un nouveau site pour le commerçant.
Ils ont bien fait de démolir les marchés, mais qu'ils nous trouvent aussi un site approprié pour vendre afin de sécuriser nos vies.
L'administrateur du marché Matadi Kibala, Dani Kouete, fait le point sur la situation du marché après sa démolition.
Le gouverneur s'est engagé de pouvoir répondre favorablement à ce qui est la construction du nouveau marché moderne de Matadi Kibala. Il y a des gens qui veulent rester là et pensent que pour vendre, il faut rester sur la chaussée. Il y a de ceux-là aussi qui sont là par manque d'espace. C'est pourquoi j'ai saisi la hiérarchie pour l'autorisation de l'aménagement d'abord du site KFM. Parce qu'on doit évacuer tous ces membres qui se trouvent sur l'ancien site et qui se trouve le long de la chaussée. Pour l'instant, nous décourageons ceux qui vendent sur la chaussée.
Les vendeurs attendent toujours un marché approprié et appellent les autorités à agir rapidement. Sachez que cet endroit est régulièrement marqué par des accidents de circulation, dont certains ont coûté la vie à plusieurs vendeurs installés sur la chaussée.
Et dans la commune de Silimbao, sur l'avenue Révolution, quartier Louboudi, toujours ici à Kinshasa, le caniveau est envahi par des tas d'immondices qui s'étendent jusqu'à la rivière Makelele. Selon les riverains, ces déchets seraient déposés chaque nuit par certains vendeurs du marché de Silimbao. Conséquence, odeur nauséabonde, prolifération des moustiques, recrudescence des maladies et risque d'inondation. Face à une situation devenue insupportable, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités. TDT avec Ella Chimbalo.
Les caniveaux de l'avenue Révolution est complètement bouché par des déchets qui s'accumulent sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à la rivière Makelele. Le riverain assiste impuissant à cette situation.
À l'origine, ce sont les vendeurs du marché Selembao qui déposent les déchets. Nous avons essayé de nettoyer nous-mêmes car les immondices sont trop nombreux et très compactés.
Dans ces coins de la capitale, les riverains vivent au quotidien avec des odeurs désagréables, des moustiques et des maladies fréquentes comme le paludisme et la fièvre typhoïde.
Nous souffrons constamment des maladies. Regardez-moi, je viens à peine de terminer un traitement et la maladie est déjà revenue. Comment vous voulez qu'on puisse guérir dans un environnement où règne une mauvaise odeur et insalubrité?
Les habitants appellent aux autorités compétentes à assainir la zone tout en insistant sur la responsabilité de chacun dans la gestion des déchets.
dans un environnement où règne mauvaise odeur et insalubrité. Chacun doit nettoyer devant sa parcelle. On ne peut pas attendre les autorités alors que certains jettent et même des déchets ici. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Au-delà de l'insalubrité, c'est surtout la santé des riverains qui reste la principale préoccupation dans cette zone de la capitale congolaise.
Actualité internationale.
Les rapatriements des ressortissants africains résidant en Afrique du Sud s'accélèrent après des vagues d'attaques xénophobes. Les violences ont poussé de nombreux immigrés à fuir leur foyer ces dernières semaines. Africa News rapporte que le Ghana, le Nigeria, le Malawi, encore le Mozambique ont commencé à évacuer leurs citoyens. Vendredi, des ressortissants du Malawi déplacés dans la province de Cap Sud ont quitté l'Afrique du Sud en bus pour rejoindre leur pays d'origine.
L'invité.
La RDC a lancé le 29 mai dernier à Kinshasa le logiciel Logimev. C'est pour la gestion numérique des informations relatives aux produits de santé. Invité de Radio Kapi, JFT Kalangi, chef de projet au sein de l'organisation internationale Village Riche, explique que ce système introduit la notion de transactionnalité pour le suivi des stocks. Il offre aussi une visibilité en temps réel sur les médicaments et intrants médicaux disponibles, mais pas que cela. JFT Kalangi s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Jefté Kalongi.
Bonjour.
Le secrétaire général à la santé vient de lancer les logiciels Logimev. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette plateforme?
Logimev est un système de gestion d'informations logistiques des produits de santé et transactionnel. Transactionnel, ça signifie qu'il vous donne des informations en temps réel. Tous les mouvements de stocks qui sont faits dans les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé sont captés par les systèmes et présentés à travers les tableaux des bords et aussi des rapports de manière à ce qu'à tout moment on a une visibilité en temps réel des données logistiques pour que les décideurs qui gèrent la chaîne d'approvisionnement des produits de santé puissent prendre des décisions qui sont nécessaires pour garantir la disponibilité des produits de santé partout où on en a besoin dans le pays.
Quel est l'impact de cet outil digital?
L'impact est que ça va améliorer beaucoup de choses. J'ai parlé de la notion de la transactionnalité. C'est vrai que jusque-là, les pays utilisent déjà des systèmes numériques pour suivre la gestion des produits de santé, mais la notion de la transactionnalité n'existait pas encore. Lorsqu'on parle de la transactionnalité, c'est par exemple, moi, je gère un dépôt A et l'autre gère un dépôt B. J'enlève les stocks pour envoyer dans les dépôts B. Il faut que automatiquement, les systèmes reflètent ce qui vient de se passer. Il ne faudra pas attendre à la fin du mois pour avoir les rapports. Et c'est cette notion de la transactionnalité que ce système apporte. Et c'est ce qui fera qu'en temps réel, les décideurs au niveau des différents programmes du ministère de la Santé pourront voir qu'est-ce qui se passe au niveau des stocks des produits de santé en termes de la chaîne d'approvisionnement qui existe dans le pays.
Comment se fera la mise en œuvre de ces projets sur terrain?
L'initiative elle-même appartient au ministère de la Santé à travers son secrétariat général, appuyé par ses bailleurs traditionnels tels que Gavi. Nous avons eu à intervenir pour pouvoir déjà implémenter les systèmes. Les systèmes sont implémentés avec tout ce qu'il faut pour que ça soit utilisé partout, mais seulement pour utiliser ça partout, ça demande de faire des formations, ça demande de prendre en compte aussi certains aspects liés à la connectivité. Et tout ça, c'est tout un programme qui est géré au niveau du secrétariat général qui a le leadership sur ces projets, aussi avec les bailleurs qui financent ces projets. Et nous, en tant que chef de projet, nous sommes là justement pour accompagner techniquement pour que cela puisse se faire tel que nous l'avons planifié.
Pourquoi avoir choisi seulement la province de Kinshasa et celle du Maniema au cours de cette phase pilote?
C'est à Kinshasa, nous avons pratiquement toutes les conditions réunies en termes de connectivité, en termes d'accessibilité. C'est plutôt une province facile à pouvoir expérimenter les systèmes. Au Maniema, on a des difficultés de connectivité et même certains coins aussi, l'accessibilité est un peu difficile. Donc, les points qui a amené à faire ce choix, c'est de pouvoir finalement avoir deux modèles. Une province où les choses sont plutôt faciles, une autre province où plutôt les choses sont un peu difficiles. Kinshasa, c'est l'ouest et Maniema, c'est l'est. C'est une façon aussi de pouvoir montrer qu'on travaille pour les pays, on n'est pas seulement dans un coin.
Vous estimez à combien les coûts de ces projets?
Donc, en termes de coûts, c'est vraiment une affaire qui est liée au pays et aussi à UNICEF et même Gavi qui finance ces projets.
Quels sont les différents partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets?
Nous travaillons en tant que village riche. Nous avons été sélectionnés à travers un processus normal d'appel d'offres. Et nous travaillons en collaboration avec CHAI, qui est aussi une organisation internationale impliquée dans les renforcements des systèmes des chaînes d'approvisionnement à des produits de santé. Nous avons aussi une structure locale avec laquelle nous travaillons, une start-up qui s'appelle DAOTech. Le but final est que nous puissions non seulement accompagner les pays à avoir ces systèmes dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, mais aussi veiller à ce que nous ayons une structure qui pourra aider dans l'appropriation nationale et aussi dans la pérennisation.
Monsieur Jephté Kalongi, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Jephté Kalongi, chef de projet à l'ONG Village Riche. C'est aussi la fin de ce journal préparé par Jude-Mister Bilanda, mis en onde par Dudu Nyangasa avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée dominicale.